Bonjour Sacré Nana, dans cet épisode, je suis très heureuse de te partager la thématique du retour à soi. Comment reconnecter à sa vraie nature quand on est concerné par une série de facettes, certaines plus connues que d'autres, certaines plus accueillies que d'autres, dont le multipotentiel, la haute sensibilité, peu importe où tu te situes dans la découverte de ces facettes-là, elles ne sont pas les seules et uniques facettes à mettre en avant, nous sommes bien plus que ça. Et c'est de ça dont je te parle dans cet épisode, dans lequel, entre autres, je te reparle de l'importance d'être au clair avec une bonne série de nos facettes, d'apprendre à les découvrir, à nous approprier ces facettes en question, parce que c'est ce qui va nous permettre d'identifier nos besoins et c'est ce qui va nous permettre aussi, ce dont je parle dans cet épisode, de glisser moins facilement, moins souvent. Alors, je te dirais peut-être plus jamais, pas plus du tout, mais dans des jeux de pouvoir, dans nos relations. Et surtout, ça nous permet d'éviter les relations toxiques. Et donc, je te donne une série d'informations et de clés pour que tu puisses sortir de cette suradaptation et que ça ne soit plus que, si c'est de l'adaptation, qu'elle soit en tout cas consciente et que tu saches exactement comment déjouer tous ces pièges. À tout de suite. Sacré Nana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie. Ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Il s'adresse aussi aux sacrés mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages, ainsi que des épisodes solo relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteur du livre « Émotif talentueux, être soi autrement » et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de 1000 facettes. Alors, c'est effectivement un grand sujet que de savoir comment se reconnecter à sa vraie nature. Se reconnecter à sa vraie nature quand on a pendant des années eu l'habitude de se suradapter parce qu'on a vécu le sentiment de décalage, parce qu'on n'a pas été informé, qu'on ne savait pas qu'on était concerné par certaines particularités, des atypies, une singularité en lien avec le haut potentiel, l'hypersensibilité, le multipotentiel et des tas d'autres choses. Alors, et qu'effectivement, on a eu l'habitude de s'adapter. Et quand je dis s'adapter un peu, c'est socialement tout à fait acceptable. Hein, c'est ce qu'on fait. On ne vit quand même pas dans un monde de bisounours. Mais par contre, quand on commence à s'adapter, quand s'adapter devient la norme, ça devient de la suradaptation. Et quand on se suradapte, on s'oublie complètement. On n'est plus du tout connecté à sa vraie nature. Et parfois, c'est conscient, parfois, ça ne l'est pas, parfois, ça va, ça vient, on ne sait pas toujours. Et donc, c'est vraiment le propos de cet épisode, nourri par une série de réflexions qui ont eu lieu dans le dernier défi métamorphose. Peut-être que tu sais, mais je propose régulièrement des défis où je propose aux personnes, en l'occurrence aux sacrés nanas, de venir travailler une thématique pendant, ici c'était 3 jours, et pouvoir ressortir avec des clés. Et sachant qu'une série de sacrés nanas m'ont rejoint dans le cercle des sacrés nanas, dont je te reparlerai un petit peu plus tard, mais voilà. Donc c'est vraiment nourri de ces éléments-là que j'ai envie de te partager toute une série de prises de conscience, d'éléments, d'explications pour que toi aussi tu puisses trouver tes propres clés. Donc effectivement, quand on a eu l'habitude de s'adapter, qu'on ne sait plus très bien qui on est, ou peut-être qu'on sait, et c'est bien pour ça que je parle de facettes, je parle de multifacettes dans Sacré Nana. Dans Sacré Nana, c'est vraiment la nana qui s'accueille dans une bonne partie de ses facettes et qui est en chemin. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle sait tout faire, et justement, la Sacrée Nana, elle n'est pas en train de faire, elle est, elle est en phase, elle honore qui elle est, même s'il y a encore des facettes avec lesquelles c'est difficile, qu'elle n'a pas encore appris à intégrer, qu'elle est en train de découvrir. Ah, mais c'est justement ça que je trouve assez intéressant, c'est toutes ces facettes et pas uniquement mettre l'accent sur sa singularité. Nous sommes bien plus qu'une ou deux ou trois ou ces facettes-là. Nous sommes un ensemble de facettes et je dis souvent que chacune de ces facettes soutient les autres. Et l'exemple que je donne en termes de facettes, il y a eu de très très beaux partages en lien avec ça dans le défi Métamorphose. Ce sont des personnes qui disent qu'elles peuvent avoir une facette très orientée, très intellectuelle, qui a besoin d'être nourrie intellectuellement, qui a besoin de chiffres, de faits scientifiques et des choses comme ça. Et à côté de ça, une autre facette qui peut être beaucoup plus perchée, connectée aux énergies subtiles, une facette créative. Et c'est d'ailleurs très intéressant d'observer que, en tout cas, à mon époque, et je pense que c'est encore bien ancré dans la société, même si c'est en train de changer, quand tu étais considérée comme étant suffisamment intelligente, surtout, il ne fallait pas te mettre dans des études créatives ou qui ne favorisaient pas tout le côté intellectuel. Et c'est comme si, d'abord, il y a une dépréciation du côté artistique, etc. Et puis, c'est comme si l'un ne pouvait pas cohabiter avec l'autre. Si je prends mon propre exemple, comme il avait été jugé que j'étais suffisamment intelligente, même si j'ai vraiment ramé à l'école, en tout cas pendant mes secondaires, le message que j'ai entendu à l'époque, c'était ben, fais ce qu'il y a de plus haut, de plus, entre guillemets, difficile. Alors, je ne dis pas que c'est comme ça qu'on me l'a dit, mais c'est comme ça que je l'ai entendu. Et ça va te permettre d'ouvrir toutes les portes par la suite. Et donc, moi, je me suis retrouvée dans une section en maths forte. Je suis quand même, alors ça fait pas longtemps qu'on le sait, mais je suis dyscalculique. Donc, quelqu'un qui est dyscalculique en maths forte, en plus, moi, ça n'a pas d'intérêt pour moi les maths. Et en sciences, avec beaucoup de sciences. Et donc, en fait, la moitié de mon horaire, c'était 7 heures de maths et 11 heures de sciences. C'était la moitié de mon horaire complet. Sachant que je suis clairement une littéraire, déjà à 12-13 ans, je savais que je voulais écrire un livre. J'ai mis longtemps à l'écrire, mais c'est fait. J'aimais déjà beaucoup écrire et je dis souvent en rigolant que c'était un des trucs avec mes petits amis de l'époque. Moi, j'écrivais leur rédaction. Je faisais ça tellement facilement. J'ai toujours aimé écrire, ça a toujours été facile pour moi. Et j'avais aussi une fibre hautement artistique, puisque je dansais, je faisais du théâtre, j'en ai fait plus tard du théâtre, mais ça m'animait vraiment. Je suis seulement en train de reconnecter à ces éléments-là aujourd'hui. Donc, tu penses que me retrouver dans des cours de sciences, de physique, de chimie, ça ne m'a jamais animée. Je pense que la seule chose très amusante, parce que ce qui m'a probablement animée à l'époque, un peu, c'est avec ma meilleure amie de l'époque où on disait qu'on allait créer des parfums. Et elle, c'est une chimiste pure et dure. Elle a d'ailleurs fait toute une carrière scientifique, belle carrière scientifique d'ailleurs, mais c'est son truc. Et moi, probablement que dans mon besoin de m'adapter, de suivre, etc., ben, ça a joué. Hein. Je l'ai suivi. Et alors, on était en train de refaire le monde sur comment on allait pouvoir créer des parfums et des choses comme ça. Ça n'a pas été très longtemps. Et donc, moi, je pense que la chimie m'a juste intéressée par rapport à ça, mais pas plus. En fait, ce n'était pas le fondement de ce qui me motivait. Ce n'était pas une motivation intrinsèque. Donc, tout ça pour te dire que on peut avoir plusieurs facettes et c'est intéressant de pouvoir identifier aussi que ce n'est pas parce qu'on est bon à quelque chose, et je le dis régulièrement, mais je le renomme, j'ai tellement besoin que tu puisses entendre ça, c'est tellement important, il me semble. Ce n'est pas parce que tu fais bien quelque chose, que tu es bon ou bonne à faire quelque chose, que tu dois nécessairement le faire. Parce que quand on est multipotentiel, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on développe toute une série de compétences. En plus, comme on aime les compétences variées, qu'on est très curieuse, ben, on va chercher, on débrouille rapidement, etc. Ce n'est pas pour ça qu'on est obligé de tout faire. Moi, je te rappelle que ce qui est vraiment important, c'est d'évaluer. Donc, dans le fait de pouvoir te reconnecter à ta vraie nature, c'est d'accueillir toutes tes facettes. Et Une fois de plus, il y en a que tu connais bien, il y en a que tu vas mieux aimer, il y en a que tu vas détester, il y en a sur lesquels tu es en chemin, il y en a que tu vas préférer cacher, il y en a d'autres que tu vas avoir envie de mettre au grand jour, mais je t'invite aussi à repérer ces facettes de toi. Hein. Donc, quand j'entends facette, c'est un trait de personnalité, un mode de fonctionnement. Okay? Donc, repère ces facettes de toi. Que tu as pas encore développé, mis en lumière celles qui vont arriver, etc. Et puis bah, accueille l'entièreté de tes facettes avec clarté. Il n'y a pas un message qui dit que c'est bien ou que c'est pas bien. C'est juste observe, graine de sagesse, observe où tu en es par rapport à ça. Et si tu veux vraiment cultiver ta graine de connaissance, c'est te connaître de manière intime. Et donc, y compris dans tes facettes, celles qui sont plutôt des zones d'ombre que tu n'aimes pas forcément accueillir. Ça fait partie de la connaissance de soi. Okay? Oui, il y a quelque chose qui me semble important aussi. J'en parle dans un de mes épisodes dans la saison 1. C'est les phases d'intégration de tes facettes. En tout cas, de ta singularité. Si tu viens découvrir, je vais englober de manière générale ton multipotentiel ou on va dire hypersensibilité, haute sensibilité. Je renomme très brièvement, il y a quatre phases. Il y a la première phase où en fait tu sais pas ce qui cloche avec toi. Alors tu n'as peut-être jamais entendu parler du multipotentiel, du haut potentiel, de l'hypersensibilité, ou tu en as peut-être entendu parler et puis tu repousses complètement l'histoire en disant que ça ne te concerne pas, que c'est pas possible que ça te concerne ou tu n'as pas envie que ça te concerne, hein, peu importe. Donc ça, c'est une première phase où tu vois pas et il est même fort probable que tu ne sais même pas que ça existe. Et puis il arrive un moment donné où la thématique vient à ta conscience et là, c'est cette deuxième phase de révolution-révélation dont je parle régulièrement. C'est la découverte et l'idée que oui, tu peux éventuellement être concerné. Ça n'est pas tout à fait sûr, ça dépend où tu en es dans ce chemin-là. Cette deuxième phase est vraiment une phase de remise en question, de nouveaux repères, de perte de repères, de questionnement, de parfois d'émotions, d'intensité émotionnelle vraiment très, très importante et intense. Et ça fait partie du chemin. Okay? Et tu peux à certains moments te dire non, non, je me suis trompée. Okay. Alors que la phase 1, c'est tu ne t'es pas encore questionné. Si tu m'écoutes dans le podcast, tu es à minima, en phase 2. Okay, tu n'es plus en phase 1. Quelqu'un qui est en phase 1 n'écoute pas un podcast comme le mien, sauf si la personne l'écoute pour quelqu'un d'autre. Okay, et à ce moment-là, il va peut-être y avoir une révélation-révolution. Okay. Alors, révolution, c'est le côté waouh, ça fait exploser tous les points de repère. Révélation, c'est waouh, ça me permet enfin de comprendre et de donner du sens. Et c'est pas binaire une fois de plus, hein, on navigue entre les deux. Et puis la troisième phase, c'est quand tu as commencé à intégrer et à t'approprier cette nouvelle grille de lecture. Alors, certaines personnes vont faire un bilan, d'autres pas. Certaines vont creuser plus que d'autres, évidemment. Mais quand tu commences à repérer, et j'insiste très fort quand je te parle de reconnaître tes facettes, je suis très au clair avec le fait que ce n'est pas parce qu'il y a certains bouquins qui te disent que quelqu'un qui a un fonctionnement multipotentiel ou ceci ou cela a telle et telle caractéristique que tu vas te retrouver dans tout. Et donc, ça n'est pas éliminatoire. Et c'est vraiment important que tu puisses, toi, t'approprier ce qui te parle avec l'intensité ou pas, qui te parle à toi. Parce que le but, c'est vraiment d'apprendre à te reconnaître. Et à partir du moment où tu es au clair avec ça, en phase 2, l'idée, c'est de vraiment pouvoir connecter à tes propres besoins. Et la graine de sagesse, c'est ça aussi hein, dans la DPH, donc l'approche du développement du potentiel humaniste avec les cinq graines, c'est vraiment de pouvoir observer combien les choses, comment les choses se passent pour toi, ce qui te convient, ce qui ne te convient pas, le fait de mieux te connaître, etc. Donc c'est à ça que ça sert. Parce que une fois que tu es au clair avec tes besoins, en tout cas avec une série de tes besoins, et que tu as d'abord conscience que tu as des besoins, ça va être beaucoup plus facile par la suite de pouvoir poser tes limites, de pouvoir les exprimer, parce que si tu ne les connais pas, c'est juste pas possible à faire. Okay? Donc, la troisième phase, c'est quand tu as quand même une petite idée de quels sont tes besoins, de qui tu es, de ce qui est important pour toi, de ce qui te motive, quelles sont tes valeurs, mais tes vraies valeurs, pas celles qui viennent de ta famille ou qu'on t'a apprises et que tu crois qu'elles sont les tiennes. Et le moment où tu commences à être en phase et à t'aligner, c'est que tu commences à t'aligner à ce moment-là, bien à ce moment-là, tu peux commencer à exprimer tes besoins à l'autre et à mettre en place des projets qui te correspondent vraiment. Ouais, et donc, te reconnecter à ta vraie nature, c'est ça. Okay? Alors, un des objectifs, effectivement, d'identifier et reconnaître nos multiples facettes, je rappelle qu'il n'y en a pas des bonnes et des mauvaises. C'est entre autres pouvoir redonner du sens à notre histoire, comme j'en ai parlé un tout petit peu avant. Et surtout, ce qui met en avant, c'est pourquoi on a l'impression d'appartenir ou pas à une certaine communauté. Et donc, c'est toujours très intéressant quand je réunis les personnes autour d'un défi métamorphose ou aujourd'hui autour du cercle des sacrées nanas, c'est combien en tant que femme, on peut se réunir en tant que femme multipotentielle et sensible, comment on peut se réunir alentour de caractéristiques communes, même si on est toutes différentes. Et ça fait du bien, parce que si on a vécu, si tu as vécu le sentiment de décalage pendant pas mal de temps, ça permet effectivement de reconnecter à de la bienveillance, à se retrouver dans un groupe où on n'a pas besoin de porter un costume, un masque, puisque les autres fonctionnent, alors pas comme nous, mais en tout cas, il y a des tas de points communs qu'on ne retrouve pas dans d'autres environnements. Au plus tu vas avancer, clarifier tes facettes, hein, je le disais, au plus tu vas être au clair avec tes besoins. Le grand risque de ne pas connaître ses besoins, c'est de s'adapter. Et surtout de ne pas savoir qu'on est en train de s'adapter. Ce qui m'a vraiment beaucoup touchée dans le défi métamorphose, c'est de voir combien, je pense que si je tire un constat, en tout cas celui qui m'a le plus touchée, c'est celui-là, c'est de voir combien de femmes ne se rendaient pas compte qu'elles se suradaptaient, c'est-à-dire s'adapter, oui, mais à l'extrême, en tout cas trop par rapport à ce qui est juste pour elles, c'est-à-dire que à force de s'adapter, elles ne se choisissent plus par peur du rejet, par peur de l'abandon, par peur de ne pas être conforme, parce que c'est ce qu'elles ont appris. Et ce qui est assez intéressant, c'est effectivement que on ne se rend pas toujours compte que on s'adapte et on n'a pas toujours cette conscience-là. Ce qui est intéressant aussi. J'ouvre ce sujet-là. Hein. Il revient régulièrement dans notre communauté d'hypersensibles. C'est toute la thématique des jeux de pouvoir et des relations toxiques. Alors, je fais une petite aparté ici. Je vais juste réexpliquer ce qui est intéressant dans les relations à observer. C'est ce fameux triangle dramatique, donc victime, bourreau, sauveur. Triangle de Cartman, qui est assez connu, hein, mais moi je dis ce qu'on appelle donc ces jeux de pouvoir. Je dis que ça n'est pas, c'est courant plutôt de glisser dans ces jeux de pouvoir et c'est ok, c'est vraiment ok. Moi je suis pas une puriste et je trouve tout à fait utopiste de te dire que il ne faut surtout pas glisser dans des jeux de pouvoir parce que d'une manière ou d'une autre, quand on veut quelque chose, quand ça se passe, on peut très très vite y glisser dans ces jeux de pouvoir. Donc je te réexplique très rapidement. Hein, très souvent, on rentre dans ces jeux-là à travers, alors principalement, la posture de sauveur. Et donc, c'est quoi la posture de sauveur, de sauveuse en tant que nana? C'est, eh bien, je vais donner à l'autre ce que je pense qui est bien pour lui, mais sans nécessairement valider avec la personne son besoin. Et donc, en fait, je prends le contrôle sur l'autre. Et ça vient de nos blessures. Je ne vais pas parler des blessures ici, mais ça vient vraiment de nos blessures. Et donc, ben, je fais ce que moi j'estime bon pour l'autre, mais sans vérifier avec l'autre que c'est bon. Et si la personne en face de moi, ou inversement, hein, quand quelqu'un joue au sauveur avec moi, si la personne en face de moi a un peu d'abandon dans ses blessures et a besoin qu'on prenne soin d'elle dans une période plus vulnérable, ben, dans un premier temps, ça peut être traduit comme ben, chouette, quelqu'un prend soin de moi. Et si La personne n'a pas appris à se choisir et à développer son autonomie et à faire confiance à ses ressources intérieures, eh bien, la personne en question ne va pas capter tout de suite. Alors, soit elle ne va pas capter tout de suite parce qu'elle ne sait pas encore, ou soit elle va l'observer, et c'est ça tout but. Elle va l'observer, elle ne va pas forcément dire. En fait, elle va entre guillemets se laisser faire. Et ça paraît pas bien méchant au début. Ça part d'une bonne volonté de la part de quelqu'un. Et l'autre qui reçoit est content ou elle est contente de recevoir. Sauf qu'il arrive à un moment donné, quand on est là-dedans, inconsciemment, il y a toute une série d'attentes qui sont en train de se créer. Si je sauve l'autre, c'est que je prends d'une certaine manière le pouvoir sur la relation. Et c'est pas comme ça qu'on le voit quand on n'est pas conscient. Eh bien, si l'autre ne s'adapte pas à ce qui est bon pour lui dans mon esprit, et que moi j'ai fait toute une série d'efforts, de sacrifices même, ou que je crois que j'ai fait, peut-être que j'en ai fait, mais une fois de plus, je n'ai pas validé avec l'autre, et bien à ce moment-là, je peux passer dans le côté. Le côté bourreau, ok. Et le bourreau, c'est mais quoi, j'ai fait ceci pour toi, machin, etc. Et donc, je vais en vouloir à l'autre parce qu'il n'a pas répondu à mon attente, qui en plus n'a pas été formulée. Tout ça est soit inconscient, soit conscient, mais c'est pour ça qu'on parle de jeu de pouvoir. Okay? Et l'autre en face de toi, dans l'absolu, il n'a rien demandé, il n'a rien dit non plus. Okay? L'autre, il ou elle, n'a rien dit non plus, n'a pas dit non, je ne te demande pas d'aide. L'autre comprend pas ce qui lui arrive, il n'est pas content. Okay. Et c'est là où, effectivement, quand on passe dans cette posture de bourreau et qu'on a en face de nous quelqu'un qui ne se laisse pas faire, eh bien, la personne peut réagir. Et à ce moment-là, eh bien, tu pars dans quelque chose de l'ordre. Ben, tu te rends compte, moi, je l'ai aidé. J'ai tout fait pour que il ou elle aille mieux. Je me suis même sacrifiée, etc., etc. Il peut y avoir tout un discours alentour de ça, où plus les jeux de pouvoir sont forts et au moins on est conscient, au plus on peut glisser là-dedans. Et tout ce que j'ai comme merci, c'est « je t'ai rien demandé ». Bon, attends, et puis blablabla, et je vais me positionner en tant que victime auprès de mon entourage, ou déjà face à la personne. Et on change, donc le triangle dramatique, c'est trois postures. On bouge dans les postures, hein. Il y en a souvent une préférentielle. Moi, la mienne, c'est celle du sauveur. C'est pas pour rien que je suis une accompagnante. Et quand on commence nos métiers, en tout cas quand on est bien formé en tant qu'accompagnante, moi, ça a commencé par le coaching. On est formé à repérer ces jeux de pouvoir chez nous, à commencer. Par exemple, je peux très très bien voir dans mes groupes ce qui se passe chez quelqu'un, etc. Je peux éventuellement confronter la personne, mais parfois même, alors aujourd'hui plus parce que j'ai presque 20 ans d'expérience, mais moi au début, au début, je n'ai pas fait payer les personnes parce que je me disais, elles ne vont pas s'en sortir, il faut que je les aide. Aujourd'hui, je sais combien le processus de paiement est important dans une relation d'aide. Pour que la personne prenne sa responsabilité, etc. Et donc, je suis extrêmement vigilante dans mes accompagnements à ce genre de choses et de ne pas passer dans la posture de sauveuse parce que ça peut arriver très, très vite avec la meilleure des intentions. Et pourtant, ça n'est pas. Je reprends une métaphore qui est assez connue, hein, donne à manger à un homme, il mangera une journée, apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie. C'est ça, en fait. Hein, si je suis dans ma posture de sauveuse, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner à manger. Et donc, il va falloir que je continue à lui donner à manger. Si l'autre reste dans sa posture de victime, si je veux lui donner de l'autonomie, c'est de ça dont on parle ici. Si je veux lui donner de l'autonomie, ben forcément, je vais pas du tout rentrer dans les mêmes choses. Okay? Je vais fonctionner autrement. Okay? Donc, une fois de plus, ça c'est pour positionner cette idée du triangle dramatique et donc de ces fameux jeux de pouvoir. Et en soi, ça n'est pas grave. Au plus, tu vas mettre de la conscience grâce au modèle des 5 graines, c'est-à-dire que tu vas, avec ta graine de sagesse, repérer à quel moment toi tu glisses dans telle ou telle posture ou à quel moment tu ne dis pas non, par exemple, quand on essaye de venir te sauver. ou ce que ça fait chez toi, comment tu réagis. Moi, je sais qu'avec certaines personnes dans mon entourage qui veulent me sauver, ça m'agace. Moi, je repère très vite ça aujourd'hui. Et même dans mon équipe, je leur dis régulièrement, je pense qu'elles savent ça aujourd'hui, mais je sais que j'ai dû le répéter plusieurs fois. Et je dis, mais parce que vous voyez que je suis débordée, que je cours et que je suis fatiguée, ne faites pas les choses à ma place sans me le dire, demandez-moi, proposez-moi, je trouve ça génial et merci pour ça. Mais c'est arrivé une fois ou deux, pas tout à fait récemment, mais qu'elles faisaient des trucs pour me faciliter la tâche avec plein de bonne volonté, c'est génial. Sauf que c'est pas fait comme je voulais et ou que je pensais que ça n'était pas nécessaire de faire, c'est pour ça que j'avais pas abordé le sujet. Et puis je vois tout d'un coup que quelque chose est fait et donc ça m'agace. Et donc vous voyez, je peux rentrer dans la relation avec une posture de persécutrice en disant mais tiens, pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Je n'ai pas demandé. Et leur réponse, eh ben on a voulu t'aider. Mais ça, c'est bien vraiment de ce fameux triangle. Donc c'est intéressant, hein? Alors, évidemment, dans l'équipe, on désamorce ça assez vite parce qu'on a toutes bossé sur nous, parce que j'ai cette conscience des jeux de pouvoir, mais voilà, pas anodin du tout. Donc, pour revenir à ça, là où ça devient pas cool, voire dangereux, c'est quand ce mode de comportement devient la norme. C'est-à-dire que on est tout le temps dans les jeux de pouvoir, ou en tout cas plus souvent dans les jeux de pouvoir que dans une relation où il n'y en a pas. Et pour certaines personnes, c'est la seule et unique manière de fonctionner. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir repérer ces aspects-là des choses, parce que quand on est dans des jeux de pouvoir continuels, ben, on peut plus être soi, on peut passer en insécurité, on peut être constamment dans la manipulation. Et c'est un petit peu comme, c'est là où une relation devient toxique d'ailleurs, et c'est un petit peu comme un champignon. Si tu manges un champignon vénéneux qui est bon, pas bon, à moins qu'il soit extrêmement toxique, a priori, tu vas juste être malade et tu vas te retrouver à l'hôpital et on va te soigner. Mais si tu en manges tous les jours, il arrive à un moment donné, tu vas mourir. C'est la même chose. Alors, la symbolique est forte, mais c'est la même chose. Ça devient vraiment un cercle vicieux. Donc voilà, gros point de vigilance sur cet aspect-là des choses en lien avec la capacité à identifier sa propre nature et donc à exprimer ses propres besoins. Et c'est pour ça que au plus tu vas apprendre à te connaître et pas laisser l'autre te dire qui tu es, ou essayer de t'adapter à une société qui ne te correspond pas ou un environnement qui ne te correspond pas, au moins tu vas glisser là-dedans. Et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel. C'est essentiel à repérer. Et en l'occurrence, qu'est-ce qui peut se passer quand on est trop longuement dans cette forme d'adaptation qui devient de la suradaptation? Mais parfois, comme c'est notre mode de fonctionnement, comme je le disais, je ne sais pas que je m'adapte. Et dans l'absolu, tu ne sais peut-être pas que tu t'adaptes, mais si ça n'est pas douloureux, ça va tenir pendant un temps. Voilà. Et puis un jour, il va se passer quelque chose, tu vas te rendre compte que ben, finalement, tu ne respires pas, tu n'es pas pleinement toi-même, tu n'as pas le cœur ouvert, tu es connecté à tes peurs et que ça se traduit par ta suradaptation. Donc, ça, c'est une première partie. Deuxième partie qui est quand même, quand j'ai en face de moi les personnes qui se questionnent, elles pensent qu'elles ne sont pas OK. Qu'il y a quelque chose qui fait qu'elles doivent s'adapter et donc elles s'adaptent tellement qu'elles sont dans la sur et dans l'excès d'adaptation et très souvent c'est parce qu'elles font beaucoup de choses alors qu'elles ne sont pas dans l'être, elles sont dans le faire. Ça peut se traduire par le syndrome de l'imposteur, par une recherche de perfectionnisme. Ça devient un cercle vicieux, hein. Toujours je veux faire de mieux en mieux, de plus en plus, et à un moment c'est épuisant. C'est bien pour ça qu'on a à un moment donné des burn-out, hein, parce qu'on explose. Hein, ça c'est un des aspects. Et donc je peux aussi m'adapter. Il y a des personnes qui vont se suradapter, mais de façon passive. Et donc elles sont jamais elles-mêmes. Elles laissent l'autre les guider et sous couvert que l'autre est bienveillant et c'est ce qu'il faut pour elles. Ben, elle va se laisser guider. Bon, alors, Certaines personnes estiment que ça leur convient. En tout cas, moi, ce n'est pas mon message. L'idée, c'est vraiment de pouvoir connecter à ta vraie nature. Et donc, en fait, ce que ces personnes-là font, c'est quand on est là-dedans, on fait ce que l'autre nous demande. Et c'est presque comme si on ne sait pas nous-mêmes. Ce sont des personnes à qui on va proposer, tiens, tu préfères aller au resto italien ou chinois aujourd'hui? Je ne sais pas, comme tu veux. Alors, ça peut paraître très cool de fonctionner avec des personnes comme ça, sauf qu'à un moment donné, moi personnellement, je me questionne, je me dis, mais c'est jamais se positionner. Moi, j'aime bien quand quelqu'un me dit, non, je préfère du chinois. Et si moi, j'avais envie d'aller à l'italien, je n'avais pas besoin de poser la question, ou bien je peux dire aussi, bah, tiens, moi, j'aimerais quand même bien l'italien, puis on échange. Hein, c'est ça, les relations. Alors, tu me diras, ah oui, ça rend les choses plus complexes. Bah oui, mais la relation, c'est un espace de développement. Okay? Il y a des personnes qui, face à tout ça, vont plutôt se cacher et s'isoler. Et je fais la différence avec le besoin de calme. Ce n'est pas la même chose. Ici, c'est un mode de protection. Et on peut avoir les deux. Je pense que c'est important que tu puisses vraiment différencier les deux. Et il arrive un moment où, petit à petit, étape par étape, parce que ce n'est pas le genre de truc qui se fait du jour au lendemain. Si tu as appris à t'adapter énormément, voire à suradapter, ce n'est pas demain ou même parce que tu viens dans mon cercle que dans une semaine, tu vas pouvoir être à l'aise partout. Ça, ce n'est pas vrai. Si on te raconte ça, c'est juste pas possible. Enfin, à moins qu'il y ait eu toute une série de choses tout d'un coup que tu aies travaillé. Mais voilà, ça prend un temps. Et c'est vraiment cette politique de petit, petit pas. Ce n'est pas un chemin linéaire. Le fait de petit à petit évaluer où tu te sens bien, comment, parce que apprendre à connecter à ses besoins, ça se passe par le corps. Et ton énergie va te donner pas mal d'informations sur ce qui est juste pour toi ou pas. Donc voilà, ce sont toute une série d'étapes. Hein. C'est déjà une bonne vue d'ensemble. J'avais envie de te partager ces éléments-là pour que tu puisses te reconnecter à ta vraie nature et tout simplement oser être toi et te choisir. Hein, c'est vraiment, vraiment important. Si tu as envie d'aller plus loin, d'être accompagnée par ça et d'être entourée par des femmes, des sacrées nanas, je fais la différence entre les super nanas et les sacrées nanas. La super nana, c'est celle qui fait, qui veut montrer sa perfection, qu'elle fait bien, qui croit qu'elle ne s'adapte pas, mais en réalité, la première suradaptation, c'est à l'image qu'elle pense qu'elle doit donner et c'est extrêmement confrontant. Alors que la secret nana honore sa vulnérabilité et apprend à développer sa sécurité intérieure et elle apprend à être et on navigue entre les deux. Et moi, ce que je te propose, c'est vraiment de devenir la sacrée nana, de te proposer de la douceur et à oser toi-même avec douceur et en sécurité. Et ça, c'est ce qu'on fait dans notre cercle des sacrées nanas. Tu peux y rentrer juste pour un mois ou pour une plus longue période. Si tu as envie d'en savoir plus, mais je t'invite à regarder sur www.émotif-talentueux.com/cercle, cercle au singulier, et émotif, talentueux, t'es pluriel. Donc émotif au pluriel, tiret talentueux avec un x.com/cercle pour découvrir ce que je te propose entre sacré nana. À bientôt!